Et les parents ont mis du temps à arriver parce que c'est un vrai labyrinthe pour arriver chez nous. Et on a dû prendre la voiture, aller les chercher. Enfin, c'était quand même un peu la course. Mais c'était, je dis pas, les gens arrivent chez nous parfois très énervés, les couples en colère, parce qu'ils se sont fâchés dans la voiture en cherchant la maison. Et nous, on les voit arriver et on sourit et on leur dit « vous êtes disputés ?» Et ils disent « oui ». Et on dit « on sait pourquoi ». Mais bon, faut déménager. Je me pose parfois la question suivante, et je l'ai déjà posée le dimanche matin avec vous. Quelle différence y a-t-il entre quelqu'un qui a l'esprit du Christ et un autre qui ne l'a pas ? Et parfois, dans les moments de doute que je peux vivre, moments de doute que vous vivez ici, non pas de Dieu, je ne doute pas de Dieu, mais je doute de moi. Je me demande si j'appartiens vraiment à Jésus. Est-ce que j'ai reçu l'Esprit du Seigneur ? En lisant les Actes des Apôtres, on pourrait dire, comme ont fait certains chrétiens dans le passé, que le signe de la réception du Saint-Esprit, ben, c'est des gens qui parlent en langue. Mais en fait, il n'y a que trois exemples dans les Actes des Apôtres à la Pentecôte, en acte 2, Corneille en acte 10, Paul à Éphèse en acte 19. Et dans les deux derniers que je cite, le parler en langue n'est pas un signe, mais une conséquence. On va dire c'est pareil, c'est pas tout à fait pareil. En tout cas, cela ne constitue pas une expérience normale de la réception du Saint-Esprit, et encore moins une expérience obligatoire. Ni aujourd'hui, ni chez les premiers chrétiens. On peut vivre très bien une plénitude de l'Esprit de Dieu sans avoir ce don-là, sans exercer ce don-là. La réponse à ma question, est-ce que j'ai reçu l'Esprit du Seigneur ? Elle se trouve dans Romains 8, et je vous invite à ouvrir vos Bibles. On va rester sur Romains 8, versets 1 à 17. On va lire le passage ensemble. Et ne fermez pas vos Bibles. De toute manière, les versets seront là, mais c'est bien de pouvoir suivre. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Papa, Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifié avec lui. Il y a plein de choses dans ce passage, et à l'entendre comme ça, on est... C'est confus dans la tête, la chair, l'esprit. Mais je vous invite à le relire chez vous, après cette exhortation. Hier, nous étions aux 10 ans de mariage de Blandine et Marc-Henri. Et pour ceux qui ne connaissent pas Blandine, je vais juste vous la présenter en quelques minutes. Elle est congolaise et elle a rencontré son mari Marc-Henri, français, au Niger, alors qu'ils étaient en mission pour Médecins Sans Frontières, dans leur exercice d'infirmier tous les deux. Marc-Henri était chrétien, je disais chrétien, il connaissait Jésus. Mais Blandine, elle, vivait avec Jésus. Ils se sont mariés et puis ils sont venus vivre en France, dans le quartier de l'île Moulin. Et c'est là que Blandine est arrivée ici à l'Assemblée. Elle cherchait une assemblée pour se réunir. Et elle est arrivée un mardi soir avec nous. Et elle s'est réunie régulièrement au début, en tout cas, avec nous. Elle a ensuite très vite développé une tuberculose pulmonaire. Et donc, elle n'était plus parmi nous, alors qu'elle avait fait un stage, parce qu'elle était infirmière diplômée au Congo, mais ce n'était pas reconnu en France. Donc, elle a dû reprendre ses études d'infirmière, qu'elle a menées jusqu'au bout d'ailleurs. Et en faisant ce stage, elle a attrapé la tuberculose. Elle a été soignée pour cette tuberculose. Elle s'est retrouvée enceinte. Elle a accouché de la petite Esther que nous connaissons. Et juste après l'accouchement, elle a développé un lupus érythémateux disséminé, une maladie auto-immunitaire terrible qu'on connaît, parce que notre sœur Thérèse en a été affectée, en rémission pendant 20 ans, et puis de nouveau, la maladie s'est fait entendre. Ça fait 7 ans qu'elle se bat avec cette maladie-là. Et hier, elle témoignait de l'œuvre du Seigneur dans sa vie. Alors qu'il y a 15 jours seulement, elle est sortie de l'hôpital, elle a fait un AVC. Et elle était là devant nous, avec une robe de mariée, dans ce corps malade, avec son chapeau. Elle avait revêtu sa robe d'il y a 10 ans. Et elle remerciait Dieu pour le cadeau qu'il lui avait donné en son mari, Marc-Henri, qui était là. Et c'était quelque chose de voir cette femme-là, avec ce témoignage-là, plein de joie, de paix et d'espérance. Ça a été dit dans la prière tout à l'heure. Hein? Ça prend un sens. Et d'avoir une reconnaissance pour son Dieu. Merci Seigneur. Marc-Henri avait invité toute sa famille, qui malheureusement n'est pas chrétienne. Mais hier matin, à 9h30, il s'est fait baptiser dans la mer, à Calais. Et il avait invité les membres de sa famille à venir assister à son baptême. C'est un pasteur évangélique qui l'a baptisé. La famille était là, stupéfaite de ce témoignage. Et il se tenait là devant nous en disant... Voilà, ce matin, j'ai été baptisé. Certains n'ont pas assisté à mon baptême, mais je tiens à ne pas garder cela caché. Je veux vous parler de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie et je ne peux pas faire autre chose que de vous en parler parce que ça brûle mes lèvres. Et dans un petit discours, il nous a dit, en quelque sorte, « Mon oreille avait entendu parler de toi, Seigneur, mais maintenant mon œil te voit. » C'est Job. Il fait cette prière à Dieu. Et voilà un homme qui n'a connu sa femme quasiment que malade. Sur des 10 ans qu'il a connu, il a connu 8 ans malade. Et il dit « Merci Seigneur pour ce cadeau que tu m'as donné. » C'est le monde à l'envers. Et les gens qui étaient là, on ne pouvait pas retenir nos larmes de voir cela, évidemment, parce que c'était un témoignage qui bouleverse. Cela bouleverse notre vision de la vie et des événements qui nous entourent, parce que c'est le regard de Dieu, c'est la perspective de l'esprit de vie. Et l'apôtre Paul, dans ce passage de l'Épître aux Romains, nous replace dans cette perspective de l'esprit de Jésus-Christ. Et il commence... par ce passage, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est ici la nature de l'Esprit de Dieu. Aucune condamnation. Nous ne sommes plus dans la crainte d'être condamnés. Plus de crainte. Au verset 15 du même chapitre, il dit « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Et à quoi fait-il référence ? Crainte de quoi ? Crainte de la condamnation ? La peur d'être trouvé un jour injuste ? La crainte qu'éprouve un esclave qui tremble devant son maître ? C'est le rapport des païens que les païens avaient avec leur Dieu, et on voit ça dans Actes 17, où Paul se trouve devant l'aéropage à Athènes, et là il fait un discours en disant « Mais vous avez plein de dieux, et vous avez même fait une statue au dieu inconnu. Pourquoi ? Par crainte d'en oublier un seul et de se retrouver puni et dans le malheur. » C'est le rapport de certains Israélites avec le Dieu saint qui s'est révélé dans les foudres du Sinaï, et puis c'est aussi le rapport des Juifs avec la loi, qui est en fait incompatible avec notre corps. C'est incompatible avec ce que Paul appelle notre chair. Paul dit « La chair rend la loi sans force, car nous sommes en incapacité de la suivre. » Et c'est cela, c'est en cela qu'elle nous condamne. On verra le passage après. Parce qu'en essayant de suivre la loi, ben on n'y arrive pas. On voit ça aussi dans Galates. Pourquoi ? Parce que c'est contre la nature de la chair que de suivre la loi de Dieu, la chair corrompue. Contraire, la chair a des désirs qui sont contraires à l'Esprit de Dieu. C'est un esprit de servitude et de crainte. Et cet esprit de servitude et de crainte n'est pas voulu par Dieu. Cela ne vient pas de Dieu, mais de l'homme qui vit dans l'erreur, l'homme pécheur, encore appelé l'homme qui vit selon la chair, qui est pénétré dès le début par cet esprit. Et lorsqu'il constate tout à coup le désordre dans sa vie et la mort à venir, il est dans la crainte. Nous avons reçu un esprit d'adoption, dit l'apôtre Paul. Et nous l'avons reçu à travers la mort sur la croix de Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. L'esprit d'adoption, ce n'est pas seulement un esprit filial, comme je pourrais l'avoir envers des figures maternelles ou paternelles que j'ai pu avoir dans mon existence. N'ayant pas connu mon papa, qui est mort à 3 ans, j'ai eu des figures paternelles. Ce n'est pas pour autant que je les ai considérés comme mon père ou ma mère. Mais c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui vient dans notre esprit et qui nous est donné parce que Dieu nous a adoptés. Quand on a adopté Maëva, nous sommes passés par toutes sortes de procédures. Ça a pris 1 an avant, et puis après encore 1 an en France, et avant on avait passé 9 mois d'entretien, donc des procédures administratives et judiciaires pour que le monde ne puisse jamais contester que Maëva est notre fille. Elle est inscrite sur notre livret de famille comme si Marie-Léna l'avait accouchée. Et dans son livret d'acte de naissance, à Madagascar, il y a le nom de sa maman biologique qui est noté, mais à côté, il y a le nom de Marie-Léna et de Pierre-André Jepski. C'est écrit là. Elle est notre fille. et c'est irrévocable. Et de la même manière, lorsque Dieu met en nous son esprit, il dit au monde entier, aux puissances invisibles, à toute autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que nous sommes filles et fils du Dieu vivant. Celui qui est là est mon fils bien-aimé. C'est le témoignage qui est rendu à Jésus-Christ après son baptême. Écoutez-le. Quoi que nous fassions, nous serons toujours ses enfants. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de crainte. Nous ne sommes plus entravés par les chaînes de la servitude ou d'une loi qui nous ferait faire des choses par devoir et non par désir, par crainte et non par amour. Et Paul dira aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 3, 17, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Et si nous avons l'Esprit du Seigneur, nous vivrons aussi par l'Esprit. Et Paul ajoute au verset 18, « Nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. » Alors vous me direz, oui Pierre, mais comment je sais que j'ai l'Esprit du Seigneur? Comment je peux avoir cette assurance-là? Une jeune femme de cette assemblée m'a dit récemment, dans une affirmation sincère, alors que nous parlions du baptême, « Je sais que je suis fille de Dieu. » Paul dit en Romains, au verset 16, « C'est l'Esprit lui-même qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » C'est le signe que nous avons reçu l'Esprit. Nous pouvons dire « Je suis enfant de Dieu. » Parce que c'est son esprit qui parle à notre esprit. Ce n'est pas notre esprit, son esprit qui se substitue à nous. On a toujours notre esprit. Mais c'est son esprit qui habite en nous, qui parle désormais à notre esprit. Et c'est le signe, la certitude de notre filiation à Dieu. C'est cette certitude-là qui nous fait crier « Abba ». Alors on dit, c'est marqué « Abba Père » parce que c'était écrit en grec. Et quand on mettait « Abba », ben les Grecs ne comprenaient pas. Donc « Abba », c'est de l'araméen, de l'hébreu, hein, qui veut dire « papa ». Donc c'est marqué « Abba, père ». Non, mais c'est juste « papa », quoi. « Papa ». On l'appelle « papa ». Et quand on dit « papa » à Dieu, c'est les premières syllabes que prononce un enfant lorsqu'il s'adresse à son père. Les premières syllabes, papa, maman, voilà, dada, tout ce qu'on... Mais on sait ce que ça veut dire. On sait que c'est une envie de reconnaissance, une expression, quelque chose qui vient du cœur. Quelque chose de tout simple. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est intime, c'est naïf, c'est pur, c'est tendre. Et c'est aussi plein de dépendance. Il n'y a pas de position intermédiaire. On est adopté ou on ne l'est pas. On n'est pas à moitié adopté. Non, on est adopté ou on ne l'est pas. C'est comme ça. On a l'esprit d'adoption ou on n'a pas l'esprit d'adoption. On ne peut pas être fils ou fille du Dieu vivant à moitié. Ça, c'est un premier élément, la certitude de notre filiation, et c'est pouvoir dire « Papa » en appelant notre Père qui est aux cieux, qui est dans les cieux, « Papa ». Et il y a encore un autre signe qui est extraordinaire, que l'Esprit de Dieu est en nous. Et je l'ai déjà partagé avec vous, bien sûr, un dimanche, alors que nous chantions le 145 dans les cantiques rouges, « Mon Jésus, je t'aime ». Et il y a cette phrase dans la première strophe qui dit « Les plaisirs du monde ne me tentent plus. » Et alors que je chantais ce dimanche-là « Les plaisirs du monde ne me tentent plus », je me tourne vers la sœur qui était à ma droite, et c'était Jocelyne Vanout. Je la regarde et dis « J'aimerais que cela soit complètement vrai dans ma vie. Et elle m'a regardé avec un regard ferme. Et puis elle m'a dit, parce que tu le désires ainsi, c'est donc vrai dans ta vie. Et cette pensée-là, elle m'a bouleversé. Paul le dit de cette manière au verset 5 et 6 de notre épître. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Mes désirs ne sont pas les mêmes que ceux des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Je ne désire pas la même chose. Je désire pas la même chose. Je désire ne pas être, me faire touché par l'esprit du monde. Je n'en veux pas. J'en veux pas. Je veux pas de ces choses-là. Je veux pas être esclave de l'argent. Je ne veux pas que l'argent ait quelque emprise dans ma vie. Je n'en voudrais pas. Mes désirs sont contraires même à ceux de ce monde. Ce monde, il a certes une influence dans ma vie. Mais c'est contre mon désir. Je ne le veux pas. Je veux faire le bien, non plus parce que c'est un devoir, parce que, voilà, c'est écrit, fais ceci, fais cela, donc je vais faire le bien. Non, je veux faire le bien parce que c'est ma nature. Ma nouvelle nature en Jésus-Christ, par l'esprit de paix, l'esprit de vie qui nous est donné. La troisième chose, c'est qu'on a une espérance. Et on a une espérance qui nous est donnée par l'Esprit du Dieu vivant. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'espérance? Pourquoi on a besoin d'espérance? C'est le but de notre vie, il y a un but, quoi. On n'est pas arrivé, on n'est pas encore arrivé, il y a un but. C'est pas, tout n'est pas là. Hein. On a besoin d'espérer encore. Hein, parce que la vie, elle est facile pour vous, la vie? Je ne connais pas beaucoup de gens pour qui la vie est facile, même des gens qui ont tout. Et j'en rencontre parfois des gens qui semblent avoir tout, mais qui disent, mais ma vie, elle est vide. Elle est vide. Exactement, exactement Marc. Nous avons un héritage. On a un héritage. C'est-à-dire qu'un héritage, on vous dit, bon, dans quelques temps, vous allez avoir des millions de millions, quoi. Vous dites, c'est dingue. Ouais, vous pourrez vous acheter tout ce que vous voulez. Vous êtes potentiellement riche à milliards de milliards. Et vous dites, comment? Mais si, tu l'es, Tarsis, tu l'es. L'esprit du monde. Mais on se laisse parfois gagner par cela. Moi aussi. C'est sûr que l'héritage, quand est-ce qu'on va l'avoir? Ben, Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Et il ne laisse pas ses biens à ses descendants. Ça ne se passe pas comme ça. Alors c'est quoi alors l'héritage? Être hérité de Dieu, c'est pour l'homme avoir part à sa vie éternelle, à la gloire éternelle de Dieu, avoir part à son règne. C'est être réintégré dans notre position de roi qu'on a perdu. Nous sommes des rois et des reines sur cette création que Dieu a établie. Il a établi l'homme comme roi sur la terre, nommé tous les animaux, leur donner leur nom. C'était là la prérogative donnée à l'homme. Prendre soin de cette terre, pas seulement matérielle, mais le côté spirituel, qu'on ne voit pas ces choses qui nous entourent. Et à tous ces degrés, Nous en avons été privés à cause du péché, en choisissant la chair plutôt que l'Esprit de Dieu. Et à tous ces degrés, de la rédemption à la glorification, en passant par notre sanctification, l'homme n'est rien sans Jésus-Christ. Rien. C'est par Christ seulement que l'homme a droit à cet héritage du Père. Christ a déjà pris possession de son héritage. Nous sommes héritiers de Dieu parce que nous sommes co-héritiers de Christ qui veut bien partager avec nous tous ses privilèges. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et on a la rédemption de notre âme et on attend la rédemption de nos corps. Qu'il s'agit pour le moment de faire mourir avec Christ. Et cela est merveilleusement symbolisé par le baptême, par l'immersion dans l'eau dont Paul parle en Romains au chapitre 6. Nous mourrons avec lui à ce moment-là sur la croix, il y a 2000 ans. On meurt avec lui pour ressusciter avec lui par son esprit. Et cette résurrection, elle est en esprit, mais elle va se faire dans nos corps et nous l'attendons. Mais nous sommes déjà ressuscités en esprit et nous siégeons déjà avec Christ à la droite de Dieu dans les lieux célestes, nous dit Paul en Éphésiens chapitre 2. C'est notre réalité spirituelle. Et dans la succession d'un Père terrestre, chacun des enfants ne reçoit en fait qu'une part de l'héritage. Si on est 10, ben on divise par 10, quoi. Alors un jour, il y en a un qui dit « Oh, j'en ai reçu un héritage, mais en fait, il y avait plus d'une centaine d'héritiers. Ben, ils ont reçu quelques euros chacun, quoi. » Donc, c'est pas... Bon, ils disent « Mince, on avait tellement espéré, mais on est là une centaine. » Non, ça se passe pas comme ça, l'héritage avec Dieu. L'héritage céleste, au contraire, c'est comme la lumière du soleil que chacun reçoit pleinement sans en priver les autres. Il est destiné à tous dans une indivisibilité totale. Et c'est l'essence de l'amour maternel. Et l'amour maternel, qui est décrit comme un amour infini pour l'enfant, dans la nature des choses, ça devrait être comme ça, eh ben, il se multiplie au fur et à mesure des grossesses, au fur et à mesure des enfants qui arrivent. Il ne se divise pas pour dire ben, « maintenant qu'ils sont deux, ben, j'ai la moitié pour toi et l'autre moitié... » Non. C'est un amour qui se multiplie. Et il y a cette phrase que j'aime beaucoup, c'est « Chacun en a sa part et tous l'ont tout entier. » Et c'est ça avec l'Esprit de Jésus-Christ, avec l'adoption qui nous est donnée en Jésus-Christ. Et enfin, le quatrième signe que l'Esprit de Dieu est en nous, ce sont les fruits de justice qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et Paul dit cela en Galates, et j'ai mis ça pour nous, frères et sœurs, ce matin, parce que nous avons besoin de cela. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Un même esprit, frères et sœurs. C'est un même esprit d'adoption que nous avons reçu. Hier, j'ai vu dans les témoignages de Marc-Henri et Blandine l'esprit du Seigneur. Et c'était beau à voir. Cette union de couple qui se redisait encore leur amour. Cet esprit du Seigneur, il est donné à l'Église. Et l'unité de l'Église, c'est l'Esprit qui la fera. Et je parle de l'Église assemblée, mais l'Église avec un grand E. C'est l'Esprit Saint qui la fera. C'est l'Écriture qui le dit. C'est pas par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu, par l'œuvre de l'Esprit, qui va révéler Jésus-Christ dans l'Église. Et c'est vers Jésus-Christ que nous regardons, et vers aucun autre que Jésus-Christ. Je vous invite à garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et pour terminer ensemble, j'aimerais qu'on puisse dire ça, se lever et dire ensemble cet hymne de foi qui nous est donné par l'apôtre Paul en Romains 8, 37. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.